Knapp zwei Wochen vor den Chamberwahlen läuft die Wahlkampagne auf Heichtouren. Parteien und Kandidaten touren durch die Gemeinden, sind Auftritte auf Wochenmärkte, Dippefeste und Tableronden. Was sind Schwerpunktthemen, die sich zanta der Rentrée rausschielen? Über was geht wei geschwärt? An was für Themen finden nicht an der Wahlkampagne? Darum geht es um den Politologen Philippe Poirier. Hier lädt auf der Uni Lützburg Chaire de Recherche und Études Parlementaires. Mick Entringer fährt durch Gespräch.
10 partis politiques, dont 8 présentent des listes complètes dans 4 circonscriptions. 2 nouveaux partis sont apparus au bord droit du spectre politique. Un parti de droite, l'ADR, qui a ouvert sa liste au mouvement identitaire V2050. Et un discours général prononcé autour de la langue luxembourgeoise et de valeurs nationales. Bonjour Philippe Poirier.
Moyenne.
La chaire des études parlementaires que vous dirigez suit actuellement la campagne électorale. Dans quelle mesure le paysage politique luxembourgeois et la campagne ont-ils viré à droite vers un populisme nationalisant ?
Je dirais que la question identitaire au Luxembourg est une constante depuis le référendum de 2005. Ce que nous insistons en revanche, c'est qu'avec le référendum de 2015, tous les partis essayent de récupérer une partie des électeurs qui se sont manifestés notamment sur la question du refus de la participation politique des étrangers aux élections législatives en tant qu'électeurs. Donc, plutôt qu'un emportement national populiste, on dirait qu'il y a une exacerbation électoraliste, mais qui a des bases profondes dans la société luxembourgeoise, et je le répète, depuis 2005.
2005, c'était le référendum par rapport au traité de Maastricht.
Le traité constitutionnel européen.
Ouais. Le mot « identité » remplace l'ancien terme de « race », dit l'historien Denis Couteau ce matin dans un interview au journal Quotidien. Il s'inquiète justement du discours populiste et nationalisant des partis politiques, même au Luxembourg, proche du CSV. On s'inquiète dans l'éditorial ce matin d'un « Spielmannfei », un jeu avec le feu. C'est le reproche que les partis établis à des fins purement électoralistes surfent sur la vague populiste pour en même temps éviter de parler de vrais problèmes. Qu'en dites-vous ?
Je dirais que les problèmes que nous constatons dans les études électorales sont tout sauf la question de l'identité. Les électeurs, depuis que nous faisons les études pour la Chambre des députés, sont préoccupés avant tout par les questions économiques, par la situation personnelle, par la vision qu'ils ont de la situation économique du Luxembourg, en termes d'emploi, en termes de croissance économique, en termes de futur d'emploi ou de situation économique pour les jeunes du Luxembourg. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas une préoccupation culturelle, linguistique, que certains nomment l'identité. Mais il faut bien faire attention, nous sommes dans une société pluriculturelle. Il est tout à fait normal que dans un débat politique, comme dans toutes les sociétés en Europe d'ailleurs, il y a une interrogation sur ce qui fait cohésion à la société. Alors, certains vont radicaliser ou se focaliser sur l'unilinguisme, par exemple le luxembourgeois. Et c'est ça qui existe à Luxembourg. Dans d'autres pays, la question de la cohésion va passer par la dénonciation de l'immigration ou vont insister sur une histoire mythique. On avait un référendum hier à ce sujet en Macédoine. Donc vous voyez, chaque société européenne est emportée ou discutée de cette question identitaire. Mais je le répète, les préoccupations premières des citoyens et des citoyennes du Luxembourg depuis 1999 à chaque élection électorale, ce sont les questions économiques.
Oui. Disant cela, et vous avez fait référence tout à l'heure au référendum et le poids du référendum dans la direction que prend la campagne électorale aujourd'hui, il y a quand même une ambiguïté. Comment se fait-il si le premier souci de l'électeur est un souci économique et social. Et de l'autre côté, ce discours autour de la langue et des valeurs luxembourgeoises a pris tellement de poids dans les programmes et au-delà des programmes, dans les slogans et dans l'affichage des partis.
Il faudrait peut-être s'intéresser, est-ce que les partis politiques ont des politiques publiques économiques si différentes les unes des autres ? Est-ce que la langue où le débat sur l'identité ne cache pas en réalité la convergence d'une part de ces politiques publiques économiques entre l'EDP, le CSV, le LAZP, voire Die Grünen, et d'autre part aussi que la marge de manœuvre économique d'un gouvernement au Luxembourg ou ailleurs en Europe est encadrée plus réduite. Nous sommes dans le cadre de la gouvernance économique de la zone euro. Donc, cette autonomie, cette marge de manœuvre étant plus limitée, les partis politiques ont tendance ou auraient tendance à déplacer certains enjeux de campagne vers d'autres questions. Et puis, j'ajouterai une deuxième chose, c'est que le débat sur la culture ou l'identité, d'ailleurs qui est assez difficilement compréhensible, parce que jamais autant, selon toutes les enquêtes menées, aujourd'hui, le luxembourgeois n'a été autant parlé, autant enseigné, autant cultivé, j'allais dire. En même temps, d'ailleurs, que jamais autant, le français, l'allemand, l'anglais, le portugais n'ont jamais été autant parlé ou cultivé.
La population a augmenté.
Donc, il n'y a pas de menace sur la langue luxembourgeoise. Bien au contraire, elle est dynamique.
C'est pas ce que dit M. Coy, par exemple, de V250, qui justement, par rapport à cet argument-là, jamais autant on a parlé et écrit luxembourgeois. Elle dit, si moi je sors dans la rue, c'est pas l'impression que j'ai. Donc, il met en doute aussi ces chiffres aussi qui sont derrière ce que vous venez de dire.
Écoutez, il y a l'approche de mes collègues de l'Université de Luxembourg, de d'autres universités, qui montrent très bien les dynamiques linguistiques. Par contre, que certains hommes ou femmes politiques découvrent mystérieusement un matin que le Luxembourg était une société plurilingue, historiquement, c'est tout de même curieux. Est-ce que certains hommes ou femmes politiques ou électeurs électrices découvrent que le français est la langue de la législation ? Est-ce qu'ils découvrent que le Wort est écrit en allemand ? Est-ce qu'ils découvrent que la radio socio-culturelle fait des émissions principalement en langue luxembourgeoise ? Donc c'est assez curieux. Non, soyons un petit peu, j'allais dire, concentrés et venons à l'essentiel. Le débat sur la langue et l'identité peut être compris. Il est tout à fait normal qu'il peut y avoir des améliorations de politique publique pour la langue luxembourgeoise, notamment dans le domaine de la santé. Là, il y a un vrai besoin. C'est une vraie question. Parfois même dans le domaine de la justice. Eux aussi, ce sont des demandes faites par les électeurs et les électrices. Mais entre adapter, améliorer des politiques publiques pour mieux faire vivre le luxembourgeois et considérer que le Luxembourg se réduit à une seule langue ou à une seule identité, c'est faire fi même de l'histoire du Luxembourg. Et c'est en cela une chose qui essentialise le débat politique. Alors que le débat politique, c'est justement la non-essentialisation. C'est sortir de son identité première. C'est considérer, qu'est-ce que nous devons faire ensemble ? Mais je le répète.
Est-ce que vous avez l'impression que les partis font ça ?
Je crois qu'ils, ils en donnent dans la couverture médiatique ou dans l'usage médiatique ou dans l'instrumentalisation de la langue qu'ils en font. Mais je répète, on peut très bien comprendre qu'il puisse y avoir des intérêts de politique publique et de renforcement de la langue luxembourgeoise dans certains secteurs qui est plutôt pauvre ou qui ont peu été faits dans les dernières années. Mais de réduire l'action d'un gouvernement à une question identitaire et culturelle, ce n'est pas possible dans le monde d'aujourd'hui. Alors, peut-être que le débat sur la croissance limitée ou la croissance exponentielle, peut-être ça c'est un autre débat qui mériterait plus d'approfondissement plutôt que de se concentrer sur la seule langue ou la seule identité.
Mon invité ce matin est Philippe Poirier, politologue à l'Université de Luxembourg. Il dirige la chaire des recherches en études parlementaires. Je reviens encore une fois à l'interview que donne Denis Couteau ce matin au journal quotidien. Il parle d'un danger de fascisme en Europe. Peut-être vous pourriez dire quelque chose par rapport à cela. Est-ce que vous percevez ce même danger ?
Le fascisme est une expérience politique structuré, daté dans les années 30. C'est l'État totalitaire dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine social. Il n'y a pas de distinction entre l'État et la société. Tous les mouvements que l'on considère aujourd'hui populistes ou nationalistes n'ont pas cette identité fasciste. Bien au contraire, ils veulent le retrait de l'État. Ils ne veulent pas de l'État. Regardez ce que fait, par exemple, en Italie, la Ligue Lombarde ou les mouvements Cinque Stelle. Ils veulent l'absence de l'État, l'absence de politique publique. C'est l'inverse du fascisme. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des discours de radicalité sur l'identité et l'immigration. Mais il faut bien faire attention. Nous vivons en 2018. Nous avons des questions d'identité, de pluralité, qui ne sont en rien les mêmes aux années 30. Faisons attention dans les comparaisons historiques, parce que c'est une question très sérieuse que nous devons traiter aujourd'hui.
Vous parlez de pluriculture. Est-ce que notre électorat est pluriculturel? Si la société l'est, l'électorat l'est-il aussi? Et dans quelle mesure la composition de l'électorat fait aussi à ce que les partis s'adressent de la façon de laquelle ils s'adressent à l'électeur? C'est-à-dire avec des programmes qui ne sont pas très diversifiés.
Alors, que les partis et que l'électorat soient référencés par rapport à la citoyenneté luxembourgeoise, c'est tout à fait classique, c'est même normal dans toute démocratie. Que les électeurs et les électrices luxembourgeois se sentent moins bien ou se sentent pluriculturels, cela dépend des secteurs d'activité ou de travail, cela dépend de leur lieu de résidence, cela dépend aussi de leurs parcours sociaux. Mais tout de même, je crois que se poser cette question, c'est une question curieuse de dire que est-ce qu'un individu est pluriculturel ? Un individu appartient, se construit, se développe dans différentes identités sociales. Et là, je partage tout à fait le point de vue de mon collègue Scuto. Il y a des pluri-identités sociales, dont les pluralismes culturels et linguistiques, mais aussi le pluralisme par rapport à sa situation professionnelle, à son éducation, à son territoire dans lequel on habite. Donc, l'électeur électrice luxembourgeois est certes de citoyenneté luxembourgeoise, certes, certains sont plus attachés à l'identité luxembourgeoise que d'autres, mais vécu différemment. Allez demander aux électeurs de la ville de Luxembourg, ils ne penseront pas forcément la même chose sur l'identité luxembourgeoise d'un électeur de Dèche ou de Trois-Vierges. C'est tout à fait normal d'ailleurs. C'est en cela qu'il y a une pluralité des identités, y compris parmi les électeurs et les électrices du Luxembourg.
Donc peut-être pas parler de pluralité culturelle, plutôt de diversité sociale. Est-ce que la diversité sociale, on la retrouve dans l'électorat et en même temps dans ce que proposent les partis politiques?
Alors il y a deux très distinct de l'électorat au Luxembourg, c'est la surreprésentation de la fonction publique dans l'électorat ou des retraités de la fonction publique. Et puis la deuxième très distinctive par rapport aux autres électorats législatifs en Europe, c'est la surreprésentation des personnes de plus de 50 ans et plus, et même des plus de 60 ans et plus. Donc, ces deux surreprésentations ont des conséquences et nous les connaissons très bien. À chaque élection, on voit que le poids de la fonction publique ou le poids d'un électorat plus âgé a des conséquences sur les résultats. Mais ce que nous constatons aussi depuis 2012-2013, c'est qu'il commence une diversification de cet électorat. Et aussi au point de vue économique, de plus en plus de jeunes ou de moins jeunes ne sont pas fonctionnaires. Et donc ils adoptent des attitudes différentes vis-à-vis de tel parti, de tel programme politique. Et même les fonctionnaires ne sont pas un bloc. Considérer la fonction publique comme un bloc au Luxembourg électoral, certes ils sont surreprésentés, mais vous avez différentes formes de fonction publique qui agissent différemment dans l'enceinte électorale.
En comparant les programmes électoraux, on se rend compte que les grands partis de CSV ou l'ASAP des Pays des Grignes, vous l'avez dit aussi, ne diffèrent pas beaucoup en contenu. Tous veulent la digitalisation, soutenir le développement de la place financière, du logement accessible, une croissance durable, ne pas augmenter le taux d'imposition des entreprises, sinon le baisser, plus de justice fiscale pour les ménages faibles et les monoparentaux. En même temps, les programmes sont souvent vagues. Il y a très peu de mesures concrètes. Pourquoi ?
Il faudrait leur poser la question.
Vous avez une idée ?
Moi, je pense qu'il y a un consensus classique historique au Luxembourg. D'ailleurs, le Luxembourg ne peut vivre en termes de finances publiques que si la croissance économique est soutenue. C'est parce qu'on est dans une économie de petite dimension. Il faut tenir compte. Alors, à partir de là, on ne peut jouer qu'à la marge entre partis pour qu'est-ce qu'il faut stimuler cette économie de petite dimension ? Est-ce qu'il faut insister sur certains secteurs d'économie, comme par exemple la place financière ? D'autres vont insister sur le tissu des PME et des PMI. D'ailleurs, l'ADR, CSF ou DP se ressemblent très fortement là-dessus, sur la notion des PME et PMI. D'autres vont plutôt insister sur la diversité des nouvelles technologies, etc. etc. Alors, je répète, les partis politiques ont aussi moins de manœuvre, de capacité d'autonomie. autonomie vis-à-vis de la sphère économique. L'État luxembourgeois, comme d'autres États en Europe, est confronté ou subit des règles propres à l'Union européenne, à la zone euro. Et puis, n'oublions pas que la place financière, c'est une place mondialisée, là. Alors là, c'est l'inverse du discours sur l'identité. Le marché, il est mondial, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et donc, il est tout à fait naturel que chaque parti tente de se mettre au centre autour de cette place mondialisée.
Revenant au spectre politique, face à une droite plus présente, où est la gauche au Luxembourg? Quelle visibilité en LNKPL, éventuellement la LSAP, dans une campagne axée sur l'identitaire, sur le libéralisme, en quelque sorte économique quand même, et la continuation d'un système économique de croissance soutenue.
Les inégalités sociales existent au Luxembourg, parmi les électeurs luxembourgeois, mais aussi avec le reste de la société qui vit ou qui se développe à Luxembourg. Le problème de la gauche, comme on disait autrefois, comme dit Link, c'est que le corps électoral n'est pas forcément celui qui est au centre des inégalités sociales. Et donc, le discours de l'État-providence, le discours de la lutte contre les inégalités sociales est moins prenant ou moins prégnant dans l'électorat luxembourgeois. Mais je le répète, les inégalités sociales existent aussi dans l'électorat luxembourgeois. Tout le monde n'est pas dans le haut de la société. Et d'ailleurs, Die Linke, par ce discours classiquement plus à gauche, mais aussi, il a aussi eu une capacité à se réformer ces dernières années. Il n'applique pas simplement le discours néo-marxiste classique de la gauche. Il prend des initiatives. Une partie du LSAP aussi essaye de gauchir son discours sur certaines questions. Et on voit qu'il y a quand même une petite capacité d'attrait parmi des électorats qui souffrent de l'inégalité sociale ou, mais pas simplement salariale, de l'inégalité sociale aussi vis-à-vis de l'accès aux technologies, au logement, au transport. Ce sont des questions qui demeurent.
Emblématique de cette législature est la place qu'a pris le grand parti de CSV. En opposition, elle s'est souvent tenue en retrait. On lui reproche d'attendre son tour. Est-ce une stratégie qui pourra marcher?
C'est une stratégie curieuse. Parce que les électeurs et électrices du CSV, du moins ceux qui sont les plus convaincus, sont en attente d'un retour au pouvoir. Et ils veulent se mobiliser. Jusqu'ici, la mobilisation ne semble pas si forte que cela. Si l'on en croit les dernières enquêtes d'opinion qui ont été publiées au mois de juin, on voyait un léger tassement dans les intentions de vote vis-à-vis du CSV. Le CSV s'est présenté toujours historiquement comme le parti du centre, avec différents électorats, différentes factions, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, il y a différents groupes sociaux et factions, mais il réussissait toujours à donner une identité forte à l'ensemble de ses factions. Pour l'instant, cette position d'attente peut lui coûter éventuellement un ou deux sièges, voire peut-être plus. Mais il reste 15 jours de campagne. Et n'oublions pas que, comme le CSV, comme pour tous les autres partis, 20% des électeurs et des électrices vont se déterminer quasiment le jour même de l'élection. Donc c'est une élection qui est plus ouverte que prévu.
Alors Philippe Poirier, votre pronostic pour ces élections ?
Je pense qu'on va avoir des surprises en termes électoraux par rapport à toutes les enquêtes d'opinion qui ont été données jusqu'au mois de juin dernier. Et on peut s'attendre que l'ADR et Die Linke grappillent un ou deux sièges supplémentaires pour les questions que nous avons évoquées. Et tout l'enjeu, ce sera de voir le score personnel de certains dirigeants du LSAP ou du DP pour empêcher un éventuel vote sanction ou au contraire se maintenir pour rentrer en coalition avec un CSV plutôt stable ou légèrement en progression par rapport à 2013.
Tant que vous envisagez une suite de cette coalition?
Tous les scénarios sont ouverts désormais. Les Luxembourgeois se sont habitués depuis 2013 à avoir d'autres scénarios. Et il y a eu une coalition qui a duré pendant 5 ans.
Dit Philippe Poirier, merci pour l'entretien.
An den Philippe Poirier als Politolog, an hien leet op der Uni Lützebüsch den Chair de Recherche en Études Parlementaires, Mick Entringer, huet duch Gespräch gefoert. Mick gucke heraus op d'Strossen, do goufe den Accident de moien zu Bachtring an der Lonkescher Stross bei der Shell-Tankstell mat zwei Autos, net geht Louis do lännecht. E gut steg mi Louis, geht et de moien auch op der A7-Führung, wenn segem Chantier am Tunnel Gauslerbierg a beide Richtungen eng bund zou, am Tunnel Miersch as a Richtung Stadt eng Spur gesperrt, 2 Kilometer Stau fir um Tunnel Miersch, fir Richtung Stadt. An no gleich.